L'autobus du paradis, chapitres 13 et 14. Je ne sais si j'ai jamais vu chose plus effroyable que le combat de ce nain fantôme contre la joie. Il n'était pas loin d'être vaincu. Autrefois, bien loin dans le passé, on avait dû pouvoir trouver chez lui quelques lueurs d'humour et de bon sens. Tandis que la dame le regardait avec amour, avec gaieté aussi, l'espace d'un moment, il avait compris que l'attitude prise par le tragédien était absurde. L'espace d'un instant, il avait compris le rire de son interlocutrice. Lui aussi, en son temps, avait bien dû savoir qu'il n'y a personne au monde pour se trouver mutuellement plus ridicule que deux amoureux. Mais la lumière qu'il atteignait, l'atteignait à son corps défendant. Ce n'était pas ainsi qu'il s'était imaginé cette rencontre, et il ne voulait pas l'accepter. Une fois de plus, il tira sur la chaîne sa ligne de perdition et le tragédien reprit la parole. « Tu as l'audace d'en rire » gronda-t-il, « d'en rire à mon nez et à ma barbe. Voilà donc ma récompense. Très bien. C'est une chance que tu ne te fasses nul souci de mon sort. Autrement, tu pourrais regretter après coup de m'avoir renvoyé en enfer. Quoi ? Tu penses que je vais rester maintenant ? Merci bien. Je crois être assez perspicace pour me rendre compte qu'on ne veut pas de moi ici. Pas besoin de toi, c'est bien ce que tu as dit, n'est-ce pas ? Le nain n'avait pas ouvert la bouche et ne devait plus le faire désormais. Pourtant, ce fut à lui encore que la dame s'adressa. « Chérie, personne ne te renvoie. Ici, tout est joie. Tout invite à rester. » Mais, tandis qu'elle parlait, le nain devenait de plus en plus petit. « Oui, dit le tragédien, tu en dirais autant à un chien. Dieu merci, il me reste encore un certain respect de moi-même. Je vois bien que mon départ te laissera totalement indifférente. Cela ne te fait rien, je le sais, que je retourne dans le froid, dans l'obscurité, que je retrouve ces rues désertes, désertes. Non, je t'en prie, Franck, ne le laisse pas parler comme ça. » Le nain était devenu si petit qu'elle avait dû se mettre à genoux pour lui parler. Quant au tragédien, il saisit ses paroles au vol avec autant d'avidité qu'un chien qui s'empare de noces. « Ah, tu ne peux pas supporter cela » s'écria-t-il avec un accent de triomphe qui faisait mal. « Il en a toujours été ainsi. Tu as besoin d'être protégé. Il faut que l'on te tienne à l'écart de la triste réalité. Toi qui peux être heureuse sans moi, en m'oubliant, tu ne veux même pas entendre parler de mes souffrances. Tu dis « Non, je t'en prie, ne m'en parle pas, ne me rends pas malheureuse. Tu ne dois pas rompre avec le charme de ton petit paradis à toi, si douillé, si bien protégé. Et c'est là la récompense. » La dame se pencha encore davantage, car le nain n'était maintenant pas plus gros qu'un chaton. Ses pieds avaient quitté le sol, il pendait au bout de la chaîne. « Ce n'est pas pour cela que j'ai dit non, je t'en prie. Je voulais dire, cesse de jouer la comédie. Cela ne sert à rien. Il est en train de te tuer. Lâche cette chaîne. Il est encore temps. »« Jouer la comédie !» hurla le tragédien. « Que veux-tu dire ?» Le nain était maintenant si petit que je ne le distinguais plus de la chaîne à laquelle il était suspendu, et pour la première fois, je ne pouvais plus savoir si c'était à lui que la dame s'adressait ou bien au tragédien. « Vite !» dit-elle. « Il est encore temps. Arrête ! Arrête tout de suite !»«
Arrêtez quoi ?»«
De te servir de la pitié des autres comme tu le fais. Nous l'avons tous fait, plus ou moins, sur la terre. La pitié, c'est l'aiguillon qui pousse la joie à venir en aide au malheur. Mais on peut s'en servir de travers. On peut s'en servir pour faire une sorte de chantage. Ceux qui choisissent le malheur peuvent mettre les gens heureux à la rançon en utilisant leur pitié. Je le sais maintenant. Déjà, quand tu étais enfant, tu te comportais ainsi. Au lieu de dire « je regrette », tu montais au grenier et tu boudais. Tu savais bien que tôt ou tard, une de tes sœurs allait dire « je ne peux pas supporter de penser qu'il est là-haut, tout seul, en train de pleurer ». Tu te servais de leur pitié pour exercer sur elle un chantage et finalement, elle se rendait. Et plus tard, quand nous avons été mariés, oh, puis cela n'a plus d'importance, pourvu que maintenant, tu arrêtes. Et c'est là tout ce que tu as compris de moi, gémit le tragédien, après tant d'années. Je ne sais pas ce qu'était devenu le nain. Peut-être grimpait-il le long de la chaîne comme un insecte, peut-être avait-il été en quelque sorte digéré par elle.
Non, Franck, pas cela ici, essaie d'entendre raison.
Crois-tu vraiment que la joie a été créée pour vivre constamment sous une telle menace, pour être à jamais sans défense contre ceux qui préfèrent être malheureux que de voir leur volonté contrariée? Car tu étais réellement malheureux, je le sais maintenant. Tu t'es rendu toi-même malheureux, et tu peux continuer à le faire. Mais ce qui t'est devenu impossible, c'est de communiquer aux autres ton malheur. Ici, toute chose devient de plus en plus elle-même. Ici, la joie ne peut être ébranlée. Notre lumière peut bien engloutir ton obscurité, mais ton obscurité ne peut pas atténuer notre lumière. Non, non et non, viens à nous, ce n'est pas nous qui irons à toi. As-tu sincèrement cru que l'amour et la joie seraient toujours à la merci des mines renfrognées et des soupirs de tristesse? Ne savais-tu pas qu'ils sont les plus forts?
L'amour, dit le tragédien.
Comment oses-tu employer ce mot sacré? Et tout en parlant, il ramena à lui la chaîne qui, depuis un moment, pendait inutilement à son côté. Je ne sais trop ce qu'il en fit, mais j'ai l'impression qu'il l'avala. Dès lors, et pour la première fois, il devint clair que la dame ne voyait plus que lui et s'adressait à lui.
« Où est Franck ? » dit-elle. « Et qui êtes-vous, monsieur ? Je ne vous connais pas. Vous feriez mieux peut-être de me laisser, ou bien rester si vous préférez. Si cela pouvait vous être utile, et si c'était possible, je descendrais avec vous en enfer. Mais vous ne pouvez pas faire descendre l'enfer en moi. »
« Vous ne m'aimez pas, » dit le tragédien d'une petite voix de fossé, et on ne distinguait plus qu'avec difficulté sa maigre silhouette.
« Je ne peux pas aimer un mensonge, » répliqua doucement la dame. « Je ne peux pas aimer ce qui n'est pas. Je suis plongé dans l'amour, et je n'en sortirai pas. »
Il n'y eut pas de réponse. Le tragédien avait disparu. La dame restait seule au milieu des bois. Un oiseau brun passa auprès d'elle, en sautillant, écrasant sous ses pattes frêles l'herbe que je ne pouvais faire plier. Bientôt, la dame se releva et commença à s'éloigner. Les êtres étincelants que j'avais vus auparavant s'avancèrent à sa rencontre. On les entendait chanter. « La bienheureuse Trinité est sa demeure. Rien ne peut troubler sa joie. Elle est l'oiseau qui échappe à tous les filets, le chevreuil rapide qui franchit d'un bond les fossés. L'oiselle pour ses oisillons, l'armure pour le chevalier, tel est le Seigneur pour l'esprit qui l'anime, une immuable clarté. Elle ne craint ni les terreurs de la nuit, ni les balles qui sifflent au grand jour. Le mensonge déguisé en vérité lui fait la guerre en vain, elle perce à jour l'imposture comme si c'était du verre. Le microbe insidieux ne saurait lui nuire, non plus que le soleil qui frappe en plein midi. Mille reculent devant le problème, 10 000 le résolvent de travers. Elle seule le dénoue comme en jouant. Il détache des immortels pour former sa suite sur tout chemin qu'elle doit prendre. Il lui donne la main aux endroits difficiles, ses pieds ne buteront pas dans l'obscurité. Elle marchera parmi les lions et les crotales, les dinosaures et les nichés de lionceaux. Il la remplit jusqu'au bord d'une surabondance de vie, il lui permet de contempler ce à quoi le monde aspire.
Et pourtant, ne pus-je m'empêcher de dire à mon maître, quand les formes lumineuses et leurs chants eurent disparu dans la forêt, « Je ne suis pas encore totalement convaincu. Est-il tolérable qu'elle ne soit pas touchée par la souffrance de celui qui fut son mari, même s'il s'y est plongé volontairement ?»«
Voudrais-tu qu'il ait encore le pouvoir de la tourmenter ? C'est ce qu'il a fait des jours et des années durant lorsqu'ils vivaient ensemble. »
Non, sans doute, ce n'est pas cela que je veux dire.
Quoi, alors?
Je ne sais pas très bien. Ce que certains disent sur la terre, c'est que la perte d'une seule âme est un démenti à la joie de tous ceux qui sont sauvés.
Tu vois bien qu'il n'en est rien.
En un sens, j'ai l'impression que cela devrait être.
Ce que tu dis là semble très charitable, mais te rends-tu compte de ce qui se cache derrière?
Quoi donc?
L'exigence de ceux qui n'aiment pas, de ceux qui sont emprisonnés en eux-mêmes, à savoir qu'il leur soit permis d'exercer un chantage sur l'univers,
que jusqu'au moment où ils consentiront, eux, à être heureux, selon leur propre formule, personne ne goûte aucune joie, que le pouvoir, finalement, leur appartienne et que l'enfer soit capable d'imposer son veto au paradis.
Je ne sais plus ce que je dois désirer, monsieur.
Mon fils, c'est l'un ou l'autre. Ou bien le jour viendra où la joie prévaudra et où les artisans de malheur ne pourront plus la contaminer, ou bien ceux-ci garderont pour toujours le pouvoir de détruire chez les autres le bonheur dont ils ne veulent pas pour eux-mêmes. Je le sais, cela sonne bien de dire qu'on n'acceptera pas un salut qui laisserait ne fût-ce qu'une seule créature dans les ténèbres extérieures, mais méfie-toi de ce sophisme, ou bien tu feras d'un chien des rues le tyran de l'univers.
Mais qui oserait dire, et j'ai même honte de le dire, que la pitié elle-même devrait un jour mourir.
Il faut distinguer les œuvres de la pitié, son aspect d'action, cela vivra à jamais, mais non son aspect de passion, cette tyrannie de la pitié, cette espèce de douleur qui entraîne les hommes à concéder ce qui ne devait pas l'être, à flatter quand ils devraient dire la vérité. La pitié qui a fait perdre à plus d'une fille sa virginité et à plus d'un homme d'État son intégrité, cette pitié-là, oui, elle mourra. Elle est utilisée comme une arme par les méchants contre les bons. Cette arme-là sera brisée.
Et l'autre sorte de pitié, les œuvres.
C'est une arme aussi, mais elle se trouve de l'autre côté. Elle saute plus vite que la lumière, du plus haut au plus bas, pour apporter guérison et joie, quel qu'en soit le prix. Elle change en jour l'obscurité et le mal en bien, mais elle n'impose pas au bon, comme le font les larmes hypocrites de l'enfer, la tyrannie du mal. Tout malade qui se soumet à un traitement guérira. Mais nous n'appellerons pas le bleu jaune pour plaire à ceux qui veulent à tout prix avoir la jaunisse, ni ne ferons un fumier du jardin du monde en faveur de ceux qui ne supportent pas le parfum des roses.
Vous dites que la pitié se porte vers ce qu'il y a de plus bas, mais elle n'est pas descendue avec lui en enfer. Elle ne l'a même pas vu reprendre le bus.
Où voudrais-tu qu'elle soit allée?
Eh bien, là d'où nous sommes venus, tous par ce bus, je veux dire, le gouffre sans fond, par-delà le bord de l'escarpement, c'est par là, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais vous devez le connaître, je suppose.
Mon guide eut un sourire étrange.
« Regarde, » dit-il,
et en même temps, il se mit à quatre pattes.
Je l'imitai.
« Aïe, mes pauvres genoux !» Et je le vis arracher à un brin d'herbe. S'en servant pour diriger mon regard, il me fit voir dans le sol une fissure quasi imperceptible.
« Je ne suis pas certain, » dit-il, « que ce soit par là que tu es venu, mais ce fut à coup sûr en passant par une ouverture pas plus grande que celle-ci. »«
Comment ?» dis-je, avec une stupéfaction qui n'était pas exempte de crainte.
« Comment ? J'ai vu un abîme infini et des falaises qui s'élevaient à des hauteurs prodigieuses, puis ce pays-ci au sommet des falaises. »
« Sans doute, mais ce voyage n'a pas été un simple déplacement. Le bus, c'est vous tous qui vous trouviez dedans. Vous avez changé de taille. »
« Voulez-vous dire que l'enfer, cette ville désolée et sans limite, se trouve quelque part au fond d'une petite fissure comme celle-ci ?
Exactement. L'enfer tout entier est plus petit qu'un caillou de votre monde terrestre. Il est plus petit qu'un seul atome de ce monde-ci, du monde réel. Vois ce papillon là-bas. S'il avalait l'enfer, celui-ci ne serait pas assez gros pour lui faire du mal ou pour avoir le moindre goût.
Pourtant, quand on y est, monsieur, il paraît bien grand.
Et cependant, si on prenait toute la solitude, les colères, les haines, les jalousies, les agacements qu'il contient, qu'on en faisait un tout et qu'on mettait ce magma en balance avec la moindre des joies que ressent le plus petit des élus, on n'en sentirait même pas le poids. Le mal ne peut même pas arriver à être mal aussi véritablement que le bien est bien. Si toutes les peines de l'enfer entraient dans le champ de conscience de ce petit oiseau jaune que tu vois là, perché sur un rameau, elle serait engloutie sans laisser de traces, comme ferait une goutte d'encre si elle tombait dans ce grand océan à côté duquel votre Pacifique n'est qu'une molécule.
« Je vois, » dis-je enfin, « la dame ne pourrait pas tenir dans l'enfer. »
Il opina d'un signe de tête.
« Il n'y a pas de place pour elle là-bas, » dit-il. « L'enfer ne peut pas ouvrir une bouche assez large. »
« Mais ne pourrait-elle pas se rendre elle-même plus petite, vous savez, comme Alice ?»«
Elle ne pourrait jamais se faire assez petite.
Un damné, lui, est comme rien. Il est rétréci, refermé sur lui-même. Le flot du bien ne cesse de déferler sur les damnés comme les ondes sonores frappent les oreilles d'un sourd, mais ils ne peuvent le recevoir. Leurs poings sont fermés, leurs dents serrées, leurs yeux farouchement clos. Au début, ils ne veulent pas ouvrir leurs mains aux dons qui leur sont offerts, leur bouche à la nourriture, leurs yeux à la lumière. À la fin, ils ne le peuvent même plus. Donc, personne ne saurait les approcher. Seul celui qui est plus grand que tout peut se faire assez petit pour pénétrer à l'enfer. Plus on est élevé dans l'échelle des êtres, plus bas on peut descendre. Un homme peut sympathiser avec un cheval ne le peut pas avec un rat. Un seul, tu le sais, est descendu en enfer.
Le fera-t-il encore? Ce n'est pas seulement une fois, il y a bien longtemps qu'il l'a fait. Le temps ne se mesure plus de la même manière quand on a quitté la terre. Tous les instants qui ont été, ou qui seront, étaient ou sont présents au moment où il est descendu, il n'est pas d'esprit en prison auquel il n'est prêché.
Et certains l'ont-ils écouté?
Oui.
Vos livres montrent, monsieur, que vous avez professé le salut universel. À vous lire, on penserait que tous les hommes doivent être finalement sauvés. À lire saint Paul aussi. On ne peut rien savoir de la fin de toute chose. Rien, en tout cas, qui puisse s'exprimer dans les termes que tu emploies. Nous pouvons croire que, comme le Seigneur l'a dit à Dame Julienne, tout ira bien, vraiment bien, que toutes choses finiront bien. Mais il n'est pas bon de remuer de tels problèmes.
Parce qu'ils sont redoutables, n'est-ce pas?
Non, parce que toutes les réponses déçoivent. Si, pour poser la question, tu te places à l'intérieur du temps et considères les diverses possibilités, la réponse ne fait pas de doute. Deux voies s'ouvrent devant nous. Aucune des deux n'est fermée. N'importe qui peut choisir la mort éternelle. Ceux qui la choisissent l'auront. Mais si tu essaies de plonger ton regard jusque dans l'éternité, si tu tentes d'apercevoir l'état final des choses, ce qui sera, on ne peut s'exprimer qu'ainsi, quand il n'y aura plus de possible, mais seulement le réel, alors tu poses une question pour laquelle il n'est pas de réponse qu'une oreille mortelle puisse entendre. Le temps est comme la lentille optique à travers laquelle vous voyez quelque chose qui autrement serait trop vaste pour votre regard. Vous le voyez nettement, mais en réduction, comme lorsqu'on regarde par le mauvais bout d'une longue vue. Et ce quelque chose, c'est la liberté, c'est-à-dire le don par lequel vous ressemblez le plus à votre Créateur, par lequel aussi vous faites vous-même partie de la réalité éternelle. Mais vous ne pouvez la voir qu'à travers cette lentille du temps. Petite image nette, aperçu dans votre longue vue à l'envers. Ce que vous découvrez, alors, c'est une série d'instants qui se succèdent, et vous-même, à chacun de ces instants, en train de faire un choix qui aurait aussi bien pu être autre, mais ni la succession temporelle, ni le fantôme de ce que vous auriez pu choisir ne constituent en eux-mêmes la liberté. Ils ne sont qu'une lentille. Cette image est un symbole, mais celui-ci est plus vrai que n'importe quelle théorie philosophique qui prétendrait voir ce qu'il y a derrière, plus vrai même peut-être que n'importe quelle vision mystique. Tenter d'apercevoir l'éternité autrement qu'à travers la lentille du temps, c'est anéantir votre connaissance de la liberté. Témoin, la doctrine de la prédestination, elle montre, avec raison, que la réalité éternelle n'a pas à attendre un futur pour être réel, mais elle ne le fait qu'en sacrifiant la liberté qui est, des deux, la vérité la plus profonde. La doctrine du salut universel ne ferait-elle pas la même chose? On ne peut pas enfermer la réalité éternelle dans une définition. C'est le temps lui-même, c'est toutes les actions et tous les événements qui remplissent le temps qui sont la définition, et le temps doit être vécu. Le Seigneur a dit, « Vous êtes des dieux. Combien de temps pourrais-tu supporter de contempler, sans la lentille du temps, la grandeur de ton âme et l'éternelle réalité du choix qu'elle doit opérer ?» Et soudain, tout changea. Je vis une grande assemblée, des formes gigantesques, immobiles. Elle se tenait debout autour d'une petite table en argent, et elle la contemplait en silence. Sur cette table, il y avait de petits personnages semblables aux pièces d'un jeu d'échecs. Ils allaient et venaient, faisaient ceci ou cela. Je sus alors que chacun était l'idolum, la représentation animée de l'un des êtres immenses qui se trouvaient là. Les actes, les mouvements de chacun étaient comme un tableau vivant, une sorte de pantomime ou de mimodrame représentant la nature intime de son maître géant. Ces pions, ce sont les hommes et les femmes, tels qu'ils se voient eux-mêmes et apparaissent les uns aux autres dans ce monde-ci. La table d'argent, c'est le temps, et ceux qui se tiennent là et regardent sont les âmes immortelles de ces hommes et de ces femmes. À cette vue, un vertige me saisit. Je fus terrifié. Me cramponnant à mon guide, je lui dis « Est-ce vraiment la vérité? Dans ce cas, tout ce que j'ai vu dans ce pays-ci serait faux. Ces conversations que j'ai entendues entre les esprits et les fantômes ne seraient que la représentation figurée de choix qui, en réalité, aurait été fait longtemps auparavant. Tu pourrais dire tout aussi bien l'anticipation de choix qui doivent être faits à la fin des temps. Mais tu ferais mieux encore de ne dire ni l'un ni l'autre. Tu as vu les choix s'opérer. Tu les as vus un peu plus clairement que tu n'aurais pu le faire sur la terre. La lentille était plus transparente, mais c'est toujours à travers une lentille que tu les as vus. Ne demande pas à un rêve de te donner plus qu'un rêve ne peut donner. » Un rêve ? Mais alors, monsieur, je ne me trouve pas réellement ici ? Non, mon fils, dit-il gentiment, et il prit ma main dans la sienne. Ce serait trop beau. Tu n'as pas goûté encore à la coupe amère de la mort. Tu es seulement en train de rêver. Et s'il t'arrive de raconter ce que tu as vu, dis bien clairement que ce n'était qu'un rêve. Oui, veille à le dire très clairement. Aux pauvres sots qui t'entendront, ne donne pas lieu de croire que tu prétends connaître ce que nul ne connaît. Je ne veux pas d'autre Swedenborg ou Dale Owen parmi mes enfants. À Dieu ne plaise, dis-je en essayant de prendre un air entendu. Dieu ne le permet pas, c'est comme je te le dis. L'entendant parler ainsi, il me parut plus écossais que jamais. Je regardai son visage fixement. La vision des pièces d'échecs s'était évanouie, et devant nous, il n'y avait de nouveau plus que des bois paisibles baignant dans cette lumière douce qui précède le lever du soleil. Mais alors, et sans cesser de regarder le visage de mon maître, je vis quelque chose qui me donna le frisson. Je tournai à ce moment le dos à l'Orient, et donc aux montagnes, tandis que mon guide, placé en face de moi, les contemplait. Son visage prit un nouvel éclat. Un plan de fougère qui se trouvait derrière se mit à briller comme de l'or. La partie des troncs d'arbres qui était exposée à l'est devint lumineuse. Les ombres s'épaissirent. Tout le temps, jusque-là, on avait entendu le chant, les trilles, le bavardage des oiseaux. Mais à présent, c'était un véritable chœur, une symphonie qui se déversait de la moindre branche. Avec cela, des coqs lançaient leurs cocoricots, des chiens aboyaient, des cors sonnaient, et par-dessus tout, 10 000 voix d'hommes, 10 000 voix d'anges sylvestres, et la forêt elle-même chantait « Il vient ! Il vient ! Dormeurs, éveillez-vous ! Il vient !» Je jetai un regard effrayé par-dessus mon épaule, pas assez longtemps toutefois pour voir, ou bien l'ai-je aperçu, le bord du soleil levant, qui de ses flèches d'or frappait à mort le temps et mettait en fuite les formes indécises. Hurlant de terreur, je me pressai contre mon maître et enfouis ma tête dans les plis de sa robe. « C'est le matin ! Le matin » criai-je. « Me voilà pris par le matin, moi qui ne suis qu'un fantôme !» Mais il était trop tard. Comme si elle était formée de blocs solides, de blocs énormes et pesants, la lumière tombait sur mon crâne avec un bruit de tonnerre. L'instant d'après, le vêtement de mon maître n'était plus que le vieux tapis de la table,
tout maculé d'encre que j'avais tiré vers moi en tombant de ma chaise. Les blocs de lumière n'étaient que les livres que j'avais entraînés avec le tapis et qui m'étaient tombés sur la tête. Je me réveillai dans une chambre glaciale, ramassée en boule sur le plancher, à côté d'un foyer éteint, tandis que l'horloge sonnait 3 heures et que par-dessus nos têtes, une sirène hurlait.